Chapitre 42. Environ de Meriden, Wyoming, mercredi 22 avril 1981. Au nord-est de Cheyenne, capitale du Wyoming, s'étend un paysage de western qui inspire à certains des sentiments lyriques et à d'autres des crises d'agoraphobie. Une fois que vous avez quitté l'Interstate pour vous engager sur les 60 km de National, vous découvrez d'immenses prairies, des clôtures abattues par le vent, minuscules et oubliées au cœur de cet infini verdoyant, quelques ranchs situés à plusieurs kilomètres de la route, des plateaux qui se dressent au nord et à l'est, tels d'énormes donjons, de rares ruisseaux bordés de broussailles, des troupeaux d'antilopes farouches, et quelques bovidés qui vous semblent indignes de l'immensité de leur pâture. Et des silos à missiles. Ces silos sont aussi peu impressionnants que peuvent l'être des édifices bâtis par l'homme au sein de ce paysage démesuré. Des petits terrains gravillonnés, protégés par des clôtures barbelées et situés à 50 ou 100 mètres de la route. On pourrait les prendre pour des stations de pompage de gaz naturel, s'il n'y avait ces girouettes en métal, ces quatre tuyaux pourvus de miroirs et ces toits de béton massif posés sur des rails rouillés. Un observateur assez hardi pour s'approcher de plus près découvrirait une pancarte accrochée au barbelé. Entrée interdite. Propriété du gouvernement des États-Unis. L'usage de la force est autorisé au-delà de ce point. Il n'y a rien d'autre à voir. On n'entend aucun bruit, excepté le vent soufflant sur la prairie et de rares meuglements. La fourgonnette bleue de l'armée de l'air sortait de la base aérienne Warren à 6h05 et y retournait à 8h27, après avoir déposé les hommes de garde à leurs postes respectifs et récupéré ceux qu'ils étaient venus relever. Ce matin-là, elle transportait 6 jeunes lieutenants, 2 affectés au QG de contrôle des missiles SAC, situé à 12 km au sud-est de Meriden, et 4 en poste au bunker, se trouvant 50 km plus loin, sur la route de Chugwater. Les 2 lieutenants assis sur la banquette arrière regardaient défiler le paysage avec des yeux ternis par la routine. Ils avaient vu des photographies prises par satellite montrant la zone de 15 000 km² telle que la voyaient les Russes. 10 anneaux de silos, des cercles de 12 km de diamètre contenant chacun 16 silos abritant des missiles Minuteman 3 à longue portée. Ces derniers temps, on évoquait souvent la vulnérabilité de ces silos un peu dépassés, ainsi que la stratégie de pilonnage des Russes, qui se faisait fort de faire exploser au-dessus de la prairie une tête nucléaire par minute pendant plusieurs heures. Et on envisageait de renforcer la protection des silos ou de les équiper d'armes plus modernes. Mais ces questions de haute politique n'intéressaient guère le lieutenant Daniel Beale et le lieutenant Tom Walters. Ce n'étaient que 2 employés se rendant au travail par un matin de printemps glacé.
« Tu tiens la forme aujourd'hui, Tom ?» demanda Bill.
« Ouais, »
dit Walters. Ses yeux restèrent fixés sur l'horizon lointain.
« T'as fait la fête avec les touristes pendant toute la nuit, hein ?»«
Non, »
dit Walters.
« Je suis rentré à 8h. »
Bill ajusta ses lunettes de soleil et sourit.
« Ouais, bien sûr. »
La fourgonnette ralentit et tourna à gauche, quittant la route pour s'engager sur une piste qui gravissait le flanc d'une colline. Elle passa devant 3 panneaux ordonnant aux personnes non autorisées de faire demi-tour. À 400 mètres de la station de contrôle, elle fit halte devant une barrière. Chacun de ses occupants montra son badge à la sentinelle pendant que celle-ci prévenait ses collègues de leur arrivée. Le même processus se déroula à l'entrée du bâtiment principal. Le lieutenant Bill et le lieutenant Walters se dirigèrent vers le bâtiment d'accès, empruntant un long corridor grillagé pendant que la fourgonnette faisait un demi-tour et se garait. Ses gaz d'échappement flottaient doucement dans l'air glacé du matin.
« Alors t'as joué au billard chez Smithy ?»
demanda le lieutenant Bill tandis qu'ils attendaient l'ascenseur. Un garde armé d'un M16 étouffa un bâillement.
« Non, »
dit le lieutenant Walters.
« Sans déconner. Je croyais que t'étais pressé de dépenser ton fric. »
Le lieutenant Walters secoua la tête, puis ils entrèrent dans la petite cage, et descendirent vers le centre de commande et de lancement situé 3 niveaux plus bas. Ils subirent 2 nouveaux contrôles avant d'arriver devant l'officier de garde dans l'antichambre de la salle de contrôle des missiles. Il était 7 heures pile.
Lieutenant Bill, présent pour le service, mon capitaine.
Lieutenant Walters, présent pour le service, mon capitaine.
Vos badges, messieurs,
dit le capitaine Peter Henshaw. Il examina soigneusement les photos des 2 hommes qu'il connaissait pourtant depuis plus d'un an. Le capitaine Henshaw hocha la tête. Le sergent qui l'assistait glissa une carte codée dans la fente appropriée et la porte extérieure du sas de sécurité s'ouvrit en sifflant. 20 secondes plus tard, la porte intérieure s'ouvrit et 2 lieutenants de l'armée de l'air apparurent. Les 4 hommes se saluèrent et sourirent.
Sergent, inscrivez dans le registre que le lieutenant Bill et le lieutenant Walters ont pris la relève du lieutenant Lopez et du lieutenant Miller à 7h01min30s,
dit le capitaine Henshaw.
Oui, mon capitaine.
Les 2 hommes épuisés tendirent à leurs camarades leurs armes et 2 épais carnets à spirale.
« Rien de spécial ?» demanda Bill.
« Des ennuis avec les câbles de communication à 3h50, » dit le lieutenant Lopez. « Gus s'en occupe. Exercice d'alerte partielle à 4h20 et exercice total à 5h10. Terry a enregistré un signal d'alarme sur la clôture 6 sud à 5h35. Nous avons effectué les vérifications. »
« Encore les lapins ?» demanda Bill.
« Défaillance des mesureurs de pression. C'est à peu près tout. »«
Tu es réveillé, Tom ?»«
Oui, » dit Walters en souriant.
« Ne vous laissez pas refiler des PC-380 en toc, » dit le lieutenant Lopez.
Et les 2 hommes s'enfurent. Bill et Walters refermèrent les portes du sas derrière eux dès qu'ils entrèrent dans la salle de contrôle, une pièce étroite et tout en longueur. Chacun d'eux se harnacha sur un des fauteuils bleus bien rembourrés qui coulissaient sur des rails, devant les consoles installées le long des murs nord et ouest. Ils entreprirent leurs 5 premières procédures de vérification, travaillant avec efficacité et prononçant de temps en temps dans leur micro des paroles destinées aux autres militaires en poste dans le complexe. À 7h43, le centre de commande d'Omaha entra en communication avec eux par l'intermédiaire de la base aérienne Warren, et le lieutenant Bill se chargea de la procédure de reconnaissance en 12 points. Lorsqu'il eut reposé le téléphone dans sa boîte bleue, il se tourna vers le lieutenant Walters.
« Tu es sûr que tu te sens bien, Tom ?»«
J'ai mal à la tête. »«
Il y a de l'aspirine dans la trousse. »«
Tout à l'heure. »
À 11h56, alors que Bill ouvrait un sac contenant des sandwichs et une bouteille thermos, la base aérienne Warren envoya aux 2 hommes le feu vert pour un exercice d'alerte. À 11h58, Bill et Walters ouvrirent le coffre-fort rouge placé sous la console numéro 2, en sortirent leurs clés et lancèrent le processus d'activation des missiles. À 12h10min30s, il ne leur restait plus qu'à armer et à lancer les 16 missiles et leurs 120 têtes nucléaires. Ils reçurent les félicitations de Warren, et Bill allait entamer le processus de désactivation, long de 2 minutes, lorsque Walters déboucla son harnais, se leva et s'écarta de sa console.
« Qu'est-ce que tu fabriques, Tom ? Il faut renvoyer les données au centre de lancement 2 avant de manger. »«
J'ai mal à la tête. »
Le visage de Walters était blême et ses yeux vitreux. Bill tendit la main vers la trousse de premier secours qui se trouvait à côté de sa thermos.
« Je crois qu'il y a un tube d'anacine là-dedans. »
Le lieutenant Walters dégaina son automatique 45 et logea une balle dans la nuque du lieutenant Bill, veillant à ce que la console ne se trouve pas dans sa ligne de mire au cas où la balle traverserait le crâne de son équipier. Elle n'en ressortit pas. Bill eut un spasme d'agonie, puis s'effondra en avant, retenu par son harnais. Du sang jaillit de ses yeux, de ses oreilles, de son nez et de sa bouche. Quelques secondes après la détonation, des voyants jaunes se mirent à clignoter et un cadran indiqua que l'on était en train d'ouvrir la porte extérieure du sas. Walter s'alla sans se presser jusqu'à la porte intérieure et logea 2 balles dans sa serrure électronique. Il retourna devant la console de Bill et actionna le levier qui déclenchait l'alimentation en oxygène de la salle de contrôle à présent scellée. Puis Walters regagna son siège et étudia son manuel pendant plusieurs minutes. On entendait des coups frénétiques sur l'épaisse porte d'acier lorsque Walters se leva, franchit les 7 pas qui le séparaient du siège de Bill, prit la clé qui se trouvait dans la poche du mort et l'inséra dans la fente appropriée. Il abaissa les 5 leviers qui armaient les missiles, puis fit de même sur sa propre console et inséra sa propre clé. Le lieutenant Walters actionna l'interphone.
« Que vous faites, lieutenant ?»
C'était la voix du colonel Anderson, en provenance du poste de commande de Warren.
« Vous savez bien qu'il faut 2 hommes pour déclencher la mise à feu. Ouvrez immédiatement cette porte !»
Walters éteignit l'interphone et regarda le cadran numérique égrené 90 secondes, puis poursuivre le compte à rebours. Selon le manuel, les explosifs étaient à présent armés et se préparaient à projeter dans les airs les chapes de béton de 110 tonnes qui protégeaient les puits d'acier abritant les missiles Minuteman. À H-60 secondes, une sirène retentirait sur chaque site, en théorie pour avertir les équipes d'inspection ou de réparation présentes sur les lieux. En fait, les hurlements des sirènes n'alerteraient que les lapins, les bœufs, et peut-être un fermier passant non loin de là sur son tracteur. Les missiles Minuteman étaient déjà alimentés en carburant solide et n'attendaient qu'une étincelle électronique pour s'embraser. L'exercice d'alerte leur avait fourni une cible et un plan de vol, avait réglé leur gyroscope et leur système de guidage électronique. À H-30 secondes, les ordinateurs stopperaient la procédure de mise à feu et attendraient le signal d'activation donné par les 2 clés. Tant que ces 2 clés ne seraient pas tournées, la procédure serait suspendue pour une durée indéfinie. Walters se tourna vers la console de Bill. Les 2 clés se trouvaient à 5 mètres l'une de l'autre. Elles devaient être tournées à moins d'une seconde d'intervalle. L'armée de l'air avait pris toutes les précautions nécessaires pour qu'un homme seul n'ait pas le temps matériel de tourner sa clé, puis de se précipiter vers celle de son équipier pour la tourner à son tour. Une grimace déforma la bouche de Tom Walters. Il alla près de la console de Bill, fit glisser sur les rails le fauteuil où gisait ce dernier, et sortit de sa poche une cuillère et 2 bouts de ficelle. La cuillère, d'un type tout à fait ordinaire, provenait du mess des officiers de Warren. Walters attacha le cuilleron à la clé de Bill, disposant le manche de la cuillère à angle droit par rapport à la clé, et y attachant son autre ficelle beaucoup plus longue. Il alla jusqu'à sa console, tendit la ficelle, attendit que l'horloge indique 30, tourna sa clé et tira sur la ficelle. La cuillère remplit parfaitement son rôle et la clé de Bill tourna. L'ordinateur enregistra le signal de mise à feu, vérifia le code que Bill et Walters avaient programmé durant l'exercice d'alerte et commença à égrener les 30 dernières secondes de la procédure. Walters attrapa un bloc-notes et rédigea un bref message. Il se tourna vers la porte. Une tache rouge cerise luisait près de la serrure. On avait apporté un chalumeau dans le sas. L'acier résisterait encore 2 ou 3 minutes. Le lieutenant Tom Walters sourit, se harnacha à son fauteuil, glissa le canon du 45 dans sa bouche, se raclant le palais, et appuya sur la détente avec son pouce. 3 heures plus tard, le général Vern Ketchum, de l'US Air Force, et son adjoint, le colonel Stephen Anderson, s'éloignèrent du centre de contrôle pour respirer un peu d'air frais et pour contempler le chaos. Une 12aine de véhicules militaires et 3 ambulances étaient garées pêle-mêle sur le parking et sur le flanc de la colline, au-delà de la zone de sécurité. 5 hélicoptères étaient posés sur le terrain d'atterrissage situé derrière le périmètre ouest, et Ketchum en vit 2 autres qui arrivaient du sud-ouest. Le colonel Anderson leva les yeux vers le ciel sans nuages.
« Je me demande ce que les Russes pensent de tout ça.
Au diable, les Russes, dit Ketchum. Aujourd'hui, je me suis fait passer un savon par toutes les autorités, jusqu'au vice-président lui-même. Il doit me rappeler dès que je serai rentré. Tout le monde exige de savoir comment cela a pu se produire. Qu'est-ce que je vais leur dire, Steve ?
On a déjà eu quelques problèmes ici, dit Anderson, mais jamais rien d'aussi grave.
Vous avez vu le dernier rapport psy de Walters ? Il date de 2 mois à peine. Ce type était modérément intelligent, célibataire, il réagissait bien au stress, ses ambitions se limitaient à sa carrière, il obéissait à la lettre aux ordres de ses supérieurs. Il faisait partie de l'équipe gagnante lors du dernier tournoi de Vanderburg, et il avait autant d'imagination que ce buisson. Le profil idéal pour un poste de ce genre.
Ketchum alluma un cigare et ses yeux luirent derrière l'épaisse fumée.
Alors que s'est-il passé, bordel ?
Anderson secoua la tête et regarda le premier hélicoptère atterrir.
Ça n'a aucun sens. Walter savait parfaitement que la dernière phase de la séquence de mise à feu devait être effectuée en tandem avec 2 autres hommes en poste dans une autre salle. Il savait parfaitement que les ordinateurs suspendraient la procédure à H-5 secondes, à moins d'avoir reçu cette confirmation.
Bill et lui sont morts pour rien.
« Vous avez son message ?»
gronda Ketchum en mâchonnant son cigare.
« Oui, mon général. Donnez-le-moi. »
L'ultime message de Walters avait été enveloppé dans du plastique, ce qui paraissait insensé à Ketchum. On n'aurait sûrement pas besoin d'analyser les empreintes digitales qui s'y trouvaient. Sa teneur était aisément perceptible à travers le plastique transparent. WVB à CAB. Pion du roi en D6. Échec. À vous de jouer, Christian.
Vous pensez que c'est un code, Steve ?
Demanda Ketchum.
Ces histoires d'échecs, ça vous dit quelque chose ?
Non, mon général.
Que veut dire CAB ?
Civil Aeronautics Board ?
Ça n'a guère de sens, mon général. Et cette référence à Christian ?
Walters était-il croyant ?
Non, mon général. Selon l'aumônier de la base, le lieutenant était unitarien mais n'allait jamais à l'office.
Le W et le B pourraient désigner Walters et Bill, dit Ketchum d'un air songeur.
Mais que veut dire ce V ? Anderson secoua la tête.
Aucune idée, mon général. Peut-être que les services secrets ou le FBI le sauront. Je pense que cet hélicoptère vert transporte l'agent du FBI venu de Denver.
Je préférerais me passer de ces types, grommela Ketchum.
Il ôta son cigare de sa bouche et cracha.
Ils doivent participer à l'enquête, mon général, dit Anderson.
C'est la loi.
Le général Ketchum se tourna vers son subalterne et lui lança un regard si peu amène que le colonel s'intéressa subitement aux plis de son pantalon.
D'accord, dit Ketchum en jetant son cigare en direction de la clôture. Allons discuter le coup avec ces connards de civils. De toute façon, la journée est déjà foutue.
Il pivota sur ses talons et s'avança d'un pas vif vers la délégation qui l'attendait. Le colonel Anderson se précipita vers l'endroit où son supérieur avait jeté le cigare, s'assura qu'il était bien éteint, puis courut pour rattraper le général.